Vous écoutez le podcast Entre les deux oreilles. Le balado en santé mentale et santé mieux-être. Une présentation de Relief. Un organisme qui vient en aide aux personnes avec un trouble anxieux, dépressif ou bipolaire et leurs proches. Relief, le chemin de la santé mentale. Voici vos animateurs. Ils sont tous les deux des visages de la santé mentale et les deux principaux collaborateurs du blog Entre les deux oreilles. Martin Binette et Lydia Mignot. Bonne écoute.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Martin Binette au micro, épisode 32 du balado en santé mentale et santé mieux-être entre les deux oreilles. Cette semaine, je reçois Eva Milko, une personne que j'apprécie énormément. Une personne que je voulais sur mon balado comme invité depuis un petit bout. Très, très heureux de vous la présenter cette semaine. En fait, Eva, elle est présidente de la firme en création de contenu Good Vibe Stratégie. J'ai voulu cette semaine parler d'un sujet que je n'avais pas abordé depuis le début du balado, c'est la création de contenu ou plus précisément le contenu en santé mentale. J'ai voulu savoir avec elle, est-ce qu'on en parle trop de la santé mentale? C'est une question que je me pose parce que depuis le début de la pandémie, vous allez être d'accord avec moi, mais on en parle beaucoup hein, de la santé mentale. Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on voit un article dans les journaux ou un reportage à la télévision sur la santé mentale. Je lui ai posé la question. Ben, on n'a pas fait le tour, en fait, de la santé mentale. Il n'y a pas une écœurantite sur le sujet? Vous allez voir une réponse très intéressante de sa part. J'ai demandé également, en termes de contenu, comment on aborde la santé mentale? Quels sont les sujets autour de la santé mentale qui sont plus difficiles à aborder ou pour lesquels il faut être vigilant de la façon qu'on l'aborde? Donc, je reçois cette semaine la présidente de la firme en création de contenu Good Vibe Stratégie, Eva Milko. Avec moi aujourd'hui, Eva Milko, présidente de Good Vibe Stratégie. Bonjour Eva, comment vas-tu?
Bonjour Martin, très bien et toi?
Ça va très bien, merci d'avoir accepté l'invitation.
Ben écoute, c'est un très grand plaisir de pouvoir faire ce projet avec toi. Ça faisait bien longtemps qu'on en avait envie et qu'on en parle. Donc voilà, ça y est, on y est.
Moi, je te dirais le premier commentaire ou observation que j'ai pour toi, si je peux trouver un parallèle ou une image, quand je pense à Eva, je pense à une météorite. Tu vois, moi, ça fait 10 ans que je fais de la santé mentale ma priorité, que je fais de la création de contenu à ma façon, sans avoir vraiment de background ou d'études je vais juste mettre mes tripes sur les réseaux sociaux, mais t'es apparu dans l'univers de la santé mentale, appelons-la comme ça, l'année dernière et avec fracas. Et ça m'a impressionné, ça m'impressionne toujours toute ton implication et tout ce que tu fais, sur le sujet. Comment t'es venu cette idée de dire, ben, je vais faire de la santé mentale, peut-être mon cheval de bataille, mais en même temps, la raison d'être de mon organisation et de ce que tu fais au quotidien?
Écoute, déjà, je te remercie pour ton gentil commentaire. J'espère que je suis une météorite, mais qui va pas rebondir pour repartir aussi vite. J'espère que je suis là pour rester, en tout cas. Oui, bah, c'est une longue histoire. C'est une très longue histoire. C'est presque une histoire de vie, en fait, mon engagement pour la santé mentale. Ça date de ma plus tendre enfance. J'ai une situation de famille qui était complexe, qui m'a amenée à l'adolescence à avoir des enjeux de santé mentale. J'ai fait une dépression qui n'était pas détectée, que j'étais un peu remise à moi-même. Puis c'était une époque aussi, je vais pas trahir mon âge, mais voilà, c'était une époque où la santé mentale, on n'en parlait pas comme ça. Et en gros, les choses étaient assez caricaturales. C'était soit on était sain d'esprit, soit on était fou. On utilisait des mots comme ça. Donc, tant qu'on se prenait pas pour quelqu'un d'autre, tout allait bien. Et donc, j'ai traversé cet épisode de dépression sans vraiment comprendre ce qui m'arrivait. Et je l'ai appris bien plus tard, finalement, ce qui m'était arrivé quand j'ai commencé justement à m'intéresser à la santé mentale. Et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Donc, en fait, j'ai eu un long parcours un peu sinueux, c'est-à-dire que j'ai d'abord été très engagée dans des ONG, dans l'humanitaire. Les causes sociales m'ont toujours beaucoup touchée. Je pense que j'ai traversé des choses dans ma vie personnelle qui ont fait que j'étais sensible aux causes humaines. J'ai été élevée par une mère célibataire dans des conditions parfois difficiles. Et donc, tout ça m'a rendue sensible. Et puis après, j'ai un peu quitté cette route-là. Je suis partie dans les entreprises. J'ai été 20 ans gestionnaire marketing et communication dans des entreprises internationales reconnues, etc. Alors voilà, j'obéissais un peu à une injonction sociale. Il fallait pour être reconnue réussir, donc avoir un beau titre, un beau salaire dans une belle entreprise. Alors je me suis un peu perdue là-dedans, même si j'ai beaucoup appris aussi. J'ai énormément appris en marketing et en communication. Et puis à un moment donné, j'ai eu un tournant dans ma vie. C'est quand on est arrivé au Québec, où j'ai décidé de revenir en fait à mes racines, à moi-même finalement, et donc vers mon humanité, vers toute ma fibre sociale. Donc j'ai commencé à m'investir en tant que bénévole dans plein de choses. J'ai fait des cours de francisation pour des personnes immigrantes. J'ai fait plein de choses. J'ai été coach de sport bénévole pour des immigrants. J'ai travaillé dans l'immigration. Et puis à un moment donné, je suis arrivée à la Fondation Jeunes en Tête, donc qui est une fondation qui œuvre pour la santé mentale des adolescents. Et ils avaient besoin de moi parce qu'ils venaient de naître. En fait, c'était la fusion de la Fondation des maladies mentales et de la Fondation Québec Jeune. Mais ils avaient pas de site web de contenu, ils avaient pas de contenu sur leur site, ils avaient rien, et ils avaient besoin qu'on tisse un réseau d'experts en fait en psychologie autour de cette fondation. Alors ça a été mon mandat. Je m'y suis lancée avec beaucoup de passion parce que déjà les jeunes, l'enfance, c'était quelque chose qui me touchait beaucoup. Je suis maman moi-même, enfin c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. Et puis j'ai rapidement découvert le monde de la psychologie. Et ça a été plus qu'une expérience professionnelle, ça a été presque une exploration personnelle aussi. C'est-à-dire qu'en travaillant avec tous ces psychologues, psychothérapeutes, psychoéducateurs, travailleurs sociaux passionnants, en fait, ça m'a permis de mieux me comprendre moi-même et même j'ai évolué professionnellement et personnellement à travers cette expérience-là. Et j'ai découvert donc ce monde infini et qui a tellement de complexité, de tiroirs, de choses à découvrir, et profondément humaine que ça m'a bouleversée en fait. Ça a bouleversé ma vie. Et voilà. Et en fait, il y a eu un moment où j'ai eu envie de me relancer dans l'entrepreneuriat parce que je venais du monde des entreprises. J'avais envie aussi de retrouver cette dynamique-là, de pouvoir aussi créer quelque chose de mes mains. Et en fait, ça s'est imposé. C'est-à-dire que la psychologie, c'était tout ce qui me passionnait, ce qui m'a passionné pendant toutes ces années. Donc c'était une évidence qu'il fallait que je continue dans ce domaine-là. Et c'est là que j'ai eu cette idée de lancer cette agence de création de contenu en santé mentale.
Laisse-moi te poser la question qui me titille. Je me dis, comment peut-on gagner sa vie? Puis ça a l'air un peu, je veux pas dire prétentieux comme question, mais comment peut-on gagner sa vie en création de contenu de santé mentale? Je connais beaucoup de gens en création de contenu, mais en santé mentale, pour quelqu'un qui en a fait beaucoup, je trouve que c'est un sujet qui est, ma foi, parfois une très nichée, remplie de stéréotypes, remplie de préjugés. Comment arrive-t-on d'en faire sa, pas juste sa passion, mais son métier?
Ouais, parce que effectivement, oui, c'est passionnant comme sujet, mais après, faut en vivre. Et là-dessus, je suis partie avec plusieurs pistes en fait. On sortait de la pandémie, donc c'était un sujet dont on parlait beaucoup. Alors il y avait plusieurs pistes qui s'offraient à moi. Il y a des entreprises qui veulent s'emparer de ce sujet. Il y en a qui le font. On pense à Beneva, on pense à Bell, et plein d'autres marques en fait dans le monde qui ont embrassé cette cause-là. Il y a même Nike qui a développé son site web avec des contenus qui parlent de santé mentale, etc., et qui a beaucoup intégré le bien-être au-delà de la performance dans sa communication, etc. Surtout que c'est un sujet qui passionne particulièrement les jeunes. Les jeunes ont été très impactés par la pandémie. Donc aujourd'hui, les jeunes ont une façon de consommer qui est plus la même. Ils attendent des marques qui consomment, qu'elles aient des engagements aussi éthiques, des valeurs. Qu'elles soient engagées pour l'environnement, qu'elles soient engagées pour des causes humaines. Il y a tellement de concurrence aujourd'hui que ils ont l'embarras du choix. Donc ce qui va faire la différence, c'est le dialogue qu'ils vont avoir avec l'entreprise qu'ils vont choisir pour consommer. Et c'est aussi les valeurs que porte l'entreprise. Ça a une très grande importance. Puis ça a une grande importance dans leur façon de consommer, mais aussi eux en tant qu'employés. Ils ont des attentes très fortes en termes de valeurs incarnées par leurs employeurs. La santé mentale en fait vraiment partie. Il y a un récent sondage qui a eu lieu par la Jeune Chambre de commerce du Québec qui montrait qu'il y avait 51%, si je me trompe pas, des 18 à 25 ans qui attendaient que leur employeur se préoccupe de la santé mentale. Donc, c'est une grosse attente de leur part. Alors, c'est ça. Moi, j'avais cette idée qu'il y a des entreprises qui peuvent être intéressées d'en parler à leurs clients, d'embrasser cette cause d'une manière générale et donc d'avoir envie de publier toutes sortes de contenus sur ce sujet-là. Il y a, par exemple, une marque de cosmétiques, Maybelline, qui avait créé un site web pour parler de santé mentale à ses consommatrices. Il y a plein d'initiatives qui ont eu lieu comme ça, surtout vis-à-vis des jeunes. Donc il y avait cette avenue-là. L'autre avenue, c'était de travailler avec des OBNL, parce qu'il y a aussi beaucoup d'OBNL qui travaillent dans la santé mentale comme Relief, et qui ont besoin d'alimenter constamment leur plateforme avec des nouveaux contenus, avec des contenus qui soient d'actualité, etc. Et donc ça, c'est des choses que je peux produire. Et puis, il y a aussi le volet santé mentale au travail, qui est devenu une cause majeure, qui est pourtant plus ancienne que la pandémie, mais dont on parle beaucoup plus aujourd'hui. Et il y a de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent à cette question-là. Après, il n'y a pas toujours non plus tous les outils à disposition pour le faire correctement. Donc ça fait aussi partie de mes axes de développement, c'est d'accompagner en fait les organisations en leur fournissant des formations, mais aussi toutes sortes d'outils. Ça peut être des articles, des vidéos, des podcasts, des conférences qu'ils peuvent adresser à leurs employés pour les sensibiliser, les outiller à la santé mentale. Donc oui, c'est niche, mais il y a plein de choses à faire.
C'est un hot topic, hein, la santé mentale. Et à ma grande satisfaction, parce que je me rappelle il y a 10 ans, quand j'ai commencé à en parler, je veux pas dire que j'étais le seul, il y en avait quelques-uns, mais c'était excessivement difficile de se faire entendre. Si on parlait de santé mentale dans les grands médias, c'est parce qu'il y avait eu une tragédie qu'on associait souvent, hein. Il y a souvent des liens ou des amalgames qu'on fait entre violence et santé mentale, encore aujourd'hui. Mais à l'époque, je me souviens, là, on parlait de santé mentale comme un sujet secondaire, où on en parlait une fois par année à cause de la campagne Belle Cause. La pandémie a changé la donne parce que tu as parlé de la pandémie où est-ce qu'on a réalisé que, ah, soudainement, on a tous une santé mentale et elle a été affectée. As-tu fait ce constat-là, en fait, que la pandémie a changé la donne en termes de contenu et aussi d'accessibilité au contenu et d'ouverture au sujet? Est-ce que ça a vraiment changé les choses ou on est encore dans un contexte où est-ce que la santé mentale, c'est un sujet qu'on n'ose pas trop aborder?
Je dirais qu'on est un peu dans une époque particulière parce que effectivement, on peut pas nier l'impact énorme de la pandémie sur l'ouverture de cette discussion-là. C'est-à-dire que moi, j'étais à la Fondation Jeunes en Tête avant la pandémie. Oui, on arrivait à parler de santé mentale, mais enfin, il fallait un peu se battre, hein. C'était pas simple. Alors qu'on parlait de la santé mentale des adolescents, donc c'était déjà un peu plus admis, un peu plus que la santé mentale des adultes. C'était pas un sujet simple à défendre, là. Mais c'est sûr que la pandémie, ça a été pour le coup, même si c'est un drame en soi, ça a été un catalyseur, enfin, c'était un vecteur énorme d'informations sur le sujet. Il y a vraiment eu un éveil des consciences là-dessus, majeur. C'est devenu central même. Donc, ça a eu vraiment un impact, clairement. C'est devenu quelque chose qu'on ne peut plus nier aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, on parlait de santé physique, puis le reste, bah, c'était dans la tête. Aujourd'hui, on sait qu'il y a la santé mentale. On sait qu'il y a les deux. Maintenant, je dirais que le chemin qui reste à parcourir, c'est qu'aujourd'hui, oui, déjà, il n'y a pas toujours des bonnes informations sur le sujet. Effectivement, quand, par exemple, on a des faits d'actualité, bah, très vite, il y a des raccourcis. Il y a beaucoup de confusion entre la maladie mentale, la santé mentale. On met très vite sur le dos toutes sortes de choses sur la maladie mentale ou la santé mentale, alors que en général c'est plutôt une combinaison de facteurs sociaux, enfin personnels, etc., qui font qu'une personne arrive parfois à commettre un drame ou des choses comme ça. Donc il y a des raccourcis qui font pas du bien aux personnes qui ont des enjeux, etc. Enfin, il y a encore des choses à faire là-dessus. Puis je dirais que là où on est quand même dans une zone où on pourrait encore aller plus loin, c'est qu'aujourd'hui on parle de santé mentale assez couramment, c'est-à-dire que c'est admis, mais ça reste dans la sphère privée et c'est pour les autres. C'est-à-dire c'est ok, ça existe, c'est vrai, il y a des enjeux, mais
Mais pas
enfin
pour moi.
moi, voilà,
Ouais, c'est
moi
ça.
ça va, moi ça va par
Ouais.
contre, moi il y a pas de problème. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi le côté, bah la santé mentale c'est privé en fait, donc ça n'a pas peut-être tant sa place que ça dans l'univers de l'entreprise. Alors les entreprises sont de plus en plus ouvertes sur le sujet. Il y en a qui sont déjà très actives et qui œuvrent concrètement au bien-être de leurs employés. Mais il n'y en a pas tant que ça. Tu sais, il y a que 30% des entreprises au Canada qui ont adopté un plan pour le bien-être de leurs employés. Donc il y a 70 qui l'ont pas fait, 70%. Et je pense qu'il y a un problème encore de stigmatisation et d'incompréhension du fait que la santé mentale, ça s'arrête pas aux portes d'une entreprise. C'est pas une personne, hop, elle pose sa santé mentale et hop, elle rentre et puis c'est un professionnel qui voilà. Non, c'est absolument poreux. La santé mentale au travail, elle est complètement imbriquée avec la santé mentale dans la sphère privée. C'est un tout et vouloir les différencier, c'est une erreur. Et donc je pense qu'il y a parfois de l'incompréhension, de la stigmatisation encore qui existe, et puis de l'inquiétude peut-être aussi de certaines organisations qui savent pas trop comment aborder ce sujet, qui est quand même très
Bon
compliqué de
point.
savoir où aller,
Ouais.
jusqu'où, quoi dire, quoi faire. Quand on est face à quelque chose qu'on a du mal à comprendre, puis on sait pas trop par quel bout le prendre, parfois on a envie de le mettre un peu sous le tapis, puis de passer à autre chose là. Donc, et c'est vrai que c'est compliqué.
C'est un bon point parce que un de mes constats que j'ai fait dans les 2 dernières années en œuvrant dans santé mentale et surtout auprès des entreprises, une forte majorité des entreprises qui initiaient, en fait, commençaient des initiatives en santé mentale avaient déjà une longueur d'avance, c'est-à-dire qu'il y avait déjà cette culture saine, sécuritaire dans l'organisation. Et pour eux, de faire une conférence, de créer du contenu, de faire une formation, ça allait de soi, parce que ça faisait intrinsèquement partie de la fibre de l'organisation, appelons-le comme ça. C'est très intéressant, mais en même temps, ça demeure ma grande déception. Pourquoi? Parce que ces organisations-là qui ont une longueur d'avance, c'est bien qu'ils continuent à parler de santé mentale, c'est parfait, mais c'est les 70 autres pourcents qui, eux, n'en parlent pas. C'est ces organisations-là que, du moins, je tentais de convaincre, c'est-à-dire, vous avez une voix, vous devez parler de santé mentale, ça va avoir un impact sur la productivité de vos employés, sur votre rentabilité. C'est encore difficile de convaincre ces organisations. Comment on peut faire pour les convaincre, ces 70%, là, ces organisations qui, comme tu le dis, là, vont mettre ça sous le tapis parce qu'ils ont peur d'en parler ou pour eux, c'est pas un problème et ils veulent pas trop s'en mêler. Comment on les convainc?
Tu sais, je pense qu'il y a pas qu'une réponse, là il y en a plusieurs, mais déjà je pense qu'il y a des chiffres qui parlent tout seuls. Tu sais, quand on voit que il y a de plus en plus, alors on a fait un billet d'actualité avec Luc Lapointe dans les affaires. On montrait qu'aujourd'hui, le désengagement au travail, c'est devenu un fait majeur. Et ça, c'était dans toute l'Amérique du Nord depuis la pandémie. les gens sont de plus en plus désengagés au travail. Et on se dit, mais pourquoi finalement, enfin, pourquoi? Alors, il y a plein de raisons, mais dans les raisons, c'est que majeur, c'est qu'il y a des problèmes de santé mentale qui sont pas résolus et qui sont pas pris en compte. Et le problème, c'est qu'une personne qui est désengagée, elle est moins productive, elle a plus de conflits avec ses collègues, elle collabore moins, elle est moins créative, et puis elle s'épuise, elle a du stress, et progressivement, en fait, elle rentre, si on n'y prête pas attention, dans un burn-out. Donc, tout ça, ça crée énormément de coûts et de pertes pour les entreprises. Donc, ne pas s'occuper de la santé mentale, ça coûte cher. C'est pas qu'une question de on veut faire le bien et on est gentil. Il y a un vrai coût à ça. Par exemple, il y a Desjardins qui a présenté une étude il y a pas longtemps et qui disait que le présentéisme coûte 3 fois plus cher que l'absentéisme. Le présentéisme, c'est le fait de venir à son travail même quand ça va pas. C'est-à-dire quand on a un problème de santé physique ou mentale. Ça coûte 3 fois plus cher. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens se forcent à venir. Ils sont moins productifs parce qu'ils sont pas bien. Ils devraient pas travailler ce jour-là. Et le fait de ne pas s'arrêter, ça a des effets à long terme sur leur productivité et même sur leur engagement vis-à-vis de l'entreprise. Progressivement, ils se désolidarisent, en fait. Donc, ça a des impacts majeurs de pas s'occuper de ça. Et dans le présentéisme, la principale raison, c'est la stigmatisation sur la santé mentale. Parce que, je reprenais mes stats, il y a 2 employés sur 3 qui considèrent que la santé mentale n'est pas une raison valable pour s'absenter de son travail. Donc, on s'arrête pas quand on a un problème de santé mentale. Et donc, on fait du présentéisme, et donc on s'épuise, et donc on est moins productif, on est moins créatif, on se désengage, et on accumule de la fatigue, du stress, et qui peut arriver jusqu'au burn-out et à la démission. Donc tout ça engendre énormément de coûts et de problématiques d'organisation, de gestion de conflits. Ça a plein d'effets pervers indirects, en fait. Donc, je pense qu'il faut que des entreprises qui sont pas encore convaincues, parce qu'il y en a qui sont convaincues, mais qui ont peut-être pas aussi les moyens de le faire, financiers, ça peut arriver aussi. Mais celles qui sont pas convaincues pour le moment et qui pensent que c'est presque un luxe finalement, non, c'est pas un luxe. Il en va de leur avenir, en fait.
Laisse-moi te poser une question par rapport au contenu à nouveau. Est-ce que ça va sembler un peu incongru comme question, mais est-ce qu'on en parle trop de santé mentale? Je te fais le topo. J'avais une discussion avec quelqu'un récemment où est-ce que cette personne-là me disait, OK, je comprends que la santé mentale, c'est important, mais à chaque fois que je vais sur un site de nouvelles, il y a un article sur la santé mentale. J'ai l'impression qu'on en parle, on en parle. Il y a un écœurant titre, j'ai l'impression, qu'on ressent de la santé mentale. On pourrait attribuer ça à quoi? Moi, ce que je vois, ce que j'entends, c'est cette compréhension que c'est important, mais qu'on est un peu tanné d'en parler. Comme si on voulait faire un retour à l'arrière. Peut-être pas à l'époque de il y a 10-15 ans, mais on peut-tu prendre notre gaz égal, là, puis de dire en parler un peu moins, là, parce qu'il y a d'autres choses qui sont importantes dans la vie, il y a d'autres choses qui font partie de l'actualité. Fait que je te pose la question, on en parle-tu trop de la santé mentale?
Écoute, je pense que les réactions comme ça, tu sais, c'est un peu comme quand tu vois trop de reportages sur le réchauffement climatique, puis qu'il y a un moment, tu dis, OK, je sais que ça brûle là, mais un peu marre d'entendre des mauvaises nouvelles, puis je sais pas comment agir là-dessus. Donc, c'est un peu une façon de se protéger, c'est de quelque chose qui est quand même assez angoissant, qui est quand même pas terrible, puis on ressent pas tant de possibilités d'agir dessus finalement. Donc j'attribuerais ça à ça. Puis après, je trouve aussi que c'est un sujet qui a été entre guillemets un peu à la mode. Donc on en a beaucoup 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 parlé, un peu à toutes les sauces. Il y a un peu tout et n'importe quoi aussi qui a été dit là-dessus. Il y a aussi beaucoup de fausseté. Donc c'est sûr que, et puis chacun s'empare du sujet, on parle un peu à sa façon. Enfin bref. Donc il y a un peu de tout, quoi. Il y a du bon et du moins bon. Et c'est là que je trouve que avoir une rigueur scientifique, c'est très 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 important justement pour en parler. Moi, c'est pour ça que dans mon travail aujourd'hui, je suis absolument entourée de personnes qui ont des compétences reconnues en psychologie. Pourquoi? Parce que ce sont ces personnes-là qui vont pouvoir apporter des explications vraiment claires, qui vont faire une différence dans la vie des gens avec des outils concrets qu'ils peuvent mettre en place dans leurs existences, d'avoir toutes les nuances aussi qui sont nécessaires pour comprendre précisément chaque phénomène. Ça nous sort des discours un peu bateaux. Avec des articles, on a l'impression d'avoir lu 50 fois, qui sont des reprises de reprises de reprises. La pertinence, l'exactitude, le souci d'apporter des clés, clés en main, c'est des choses que les gens peuvent mettre dans leur quotidien. C'est ça qui va, je pense, rallier un peu plus ces personnes qui sont un peu tannées, parce que, je pense qu'elles ont besoin d'être aidées face à ça, de façon concrète. Parler des choses qui vont mal, ça, c'est bien, mais à un moment, faut passer à autre chose. Et il faut rentrer dans le détail des choses, il faut apporter des solutions, faut accompagner les gens pour qu'ils puissent concrètement agir dessus. Sinon, ça reste un espèce de truc qu'on a envie d'oublier puis que de mettre sous le tapis. Et je trouve que c'est important aussi pour crédibiliser cette question parce que la santé mentale, c'est quelque chose de très sérieux. Il y a des gens qui malheureusement en meurent de ne pas avoir eu les bons conseils, de ne pas avoir eu le bon accompagnement. Donc il y a des vies qui se jouent en face. Donc on a un devoir quand on parle de santé mentale d'avoir une rigueur scientifique et de s'assurer que tout ce qu'on dit est exact et va servir aux personnes. C'est un peu mon reproche de certaines personnes qui ont pu s'emparer de ce sujet et s'auto-improviser spécialiste de la question et parfois tenir des propos qui peuvent être dangereux pour certaines personnes.
Comme tu le sais, c'est pas facile de parler de ces enjeux de santé mentale dus à la stigmatisation. Tu as eu la gentillesse de parler de ton parcours. Tu as parlé aussi de ton parcours professionnel à l'effet que tu as travaillé dans la création de contenu depuis plusieurs années. C'est vraiment ton champ d'expertise. J'ai lu un post LinkedIn d'un créateur de contenu sur l'addiction à la cocaïne. J'ai malheureusement oublié son nom. Je m'en excuse.
Gabriel Raskinet, non?
Raskinet, exactement. Merci de le rappeler. Un post aujourd'hui, il s'insurgeait contre le fait que souvent il reçoit des commentaires de médecins, de psychiatres, de psychologues qui lui dit, tu t'égares, tu te mêles pas de tes affaires, en fait. Tu n'as aucune crédibilité à parler d'addiction, de dépendance ou même de santé mentale parce que tu n'as pas la formation requise. Laisse ça aux professionnels d'une certaine façon. Je te pose la question parce que moi, je l'ai déjà eu comme commentaire en disant, écoute, Martin, t'es massothérapeute de formation, là. Viens pas nous parler de santé mentale. Est-ce que c'est seulement l'apanage des professionnels de parler de santé mentale ou ceux qui ont vécu, ont dû vécu, ou ont une expérience de vie ont aussi voix au chapitre? T'en penses quoi de ça?
Moi, je pense que c'est les deux sont complètement indissociables. Puis, tu sais, ça, c'est vraiment mon travail, justement, c'est que moi, mon travail en tant que gestionnaire de cette agence de création de contenu, c'est de prendre l'expertise des experts, parce qu'il la faut aussi, celle-ci, mais aussi la vulgariser, la rendre accessible dans le langage que tout le monde peut comprendre et de l'humaniser, de la rendre émotionnelle, parce que c'est par les émotions qu'on atteint les personnes. C'est la littératie brute de décoffrage des études universitaires, on peut en lire 50, ça va pas toucher les gens. Il faut aller les toucher au cœur. Et donc, c'est là que des témoignages vécus sont très précieux, parce que justement, ça permet tout un processus d'identification. Les gens vont se dire, ah, mais moi aussi, ça m'est arrivé, et ça me soulage de voir que d'autres ont vécu la même chose que moi. Je vois que je ne suis pas seule et ça peut inspirer aussi de dire tiens et un tel s'en est sorti c'est intéressant etc. Donc bien sûr que les témoignages vécus sont très importants parce qu'ils permettent d'incarner d'humaniser ces questions-là qui sont profondément humaines. Donc on peut pas être que dans du domaine théorique et scientifique C'est ça. Après, ce qu'il faut faire attention toujours, c'est de toujours bien resituer aussi ces témoignages en disant attention, c'est le témoignage d'une personne, c'est son vécu à elle. Donc, ce n'est pas forcément transposable à tout le monde. Il faut prendre quelques précautions pour que, éviter que, par exemple, des gens qui écoutent une personne qui s'en est sortie et qui disent, ah, mais pourquoi moi, quand j'essaye de faire ça, ça marche pas? Il y a des raisons pour ça. C'est parce que c'est pas les mêmes personnes, ils n'ont pas le même vécu, ils n'ont pas les mêmes circonstances et c'est pas un échec. Donc, il faut, voilà, faut prendre quelques précautions autour de ces témoignages-là en expliquant bien que c'est un témoignage d'une personne particulière dans un contexte particulier. Mais néanmoins, il y a quand même des choses qui sont universelles et qui peuvent être retrouvées par plein de gens et c'est très précieux. Moi, j'aime beaucoup, justement mettre dans mes textes des témoignages de personnes qui ont pu vivre des enjeux et puis s'en sortir ou donner des messages inspirants aussi, des choses qu'ils ont appris. C'est vraiment important.
Moi, chez Relief, on a trouvé une clé. Certains événements qu'on fait, quand tu parlais que c'est indissociable, on fait des activités où est-ce que, par exemple, il va y avoir une partie témoignage pour débuter la séance et par la suite, ben, c'est un intervenant santé mentale qui va venir discuter un peu plus cliniquement des propos qui ont été dits par le témoignage. Souvent, ce que je dis, c'est on touche le cœur avant de toucher la tête.
Tout à fait.
Et c'est pour ça que je suis d'accord à 100% avec toi sur ce sujet-là. Laisse-moi te poser la question sur la prochaine étape. La prochaine étape, te parler tantôt, on a fait des grands progrès, il y a encore des choses à faire, il y a encore beaucoup de stigmatisation. C'est quoi la prochaine étape en termes de pas nécessairement de création de contenu, mais je dirais sociétal. C'est quoi la prochaine étape en santé mentale? Est-ce qu'on continue à battre les barrières? Est-ce qu'on continue à travailler sur la stigmatisation? Ou on passe à une autre étape qui serait peut-être plus, te parler tantôt d'éducation, peut-être de solutions. Je suis curieux de t'entendre par rapport à ça. Est-ce qu'on l'a terminé, la première étape de déstigmatisation, première des choses? Et si oui, ben c'est on passe à quoi maintenant? On écrit sur quoi?
Non, je pense qu'on n'a pas fini la première étape, clairement, parce que oui, on parle beaucoup plus de santé mentale, mais honnêtement, je ne sais pas combien de personnes savent exactement ce qu'est la santé mentale, par exemple. C'est un peu fou, parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup, mais finalement, est-ce qu'il y a tant de gens que ça qui savent faire la différence, ne serait-ce qu'entre la santé mentale et la maladie mentale, entre le stress et l'anxiété? Enfin, il y a tellement de notions comme ça qu'on utilise constamment et que la plupart des gens ne comprennent pas profondément. Donc oui, aujourd'hui on ose parler de santé mentale, mais maintenant et ça dépend où aussi, dans quelle sphère, etc. C'est pas chez tout le monde, c'est pas partout, etc. Mais oui, faut qu'on rentre un peu plus dans le détail là, qu'on commence à éduquer aussi un peu plus les gens. Et puis ça se fait à tous les niveaux de la société, dès le plus jeune âge, dans les écoles. Il y a déjà des choses qui se font dans les écoles, bien sûr, mais peut-être renforcer encore ça, aller plus loin encore, intensifier ces enseignements auprès des plus jeunes. Et puis je trouve que ça devrait être un paramètre qui devrait se retrouver absolument dans toutes les sphères d'activité, finalement, à tous les stades de la vie. Quand on est étudiant, on sait que les étudiants ont facilement des enjeux de santé mentale parce que ils sont pas très riches, ils sont souvent obligés d'accumuler leurs études avec un emploi à côté, ils peuvent avoir des difficultés à concilier leur vie personnelle et leur vie privée, leur vie professionnelle. Ils sont dans une étape de leur vie où ils sont en train de tout construire. Donc il y a plein de, ils ont à chaque fois des enjeux de santé mentale. Donc, ça devrait être un. À chaque fois, on devrait imaginer des ressources, des choses qui existent pour documenter, éduquer, épauler les gens à chaque étape de leur vie. Ne serait-ce que pour qu'ils apprennent quelques gestes élémentaires pour s'autogérer, qu'ils sachent. Déjà, je pense que si simplement les gens savaient ce qu'est la santé mentale et que on a tous le pouvoir de pouvoir la gérer nous-mêmes par des petits actes du quotidien, je pense que déjà ça donnerait beaucoup de choses. Parce que malheureusement, je trouve que souvent, les gens, quand on leur parle de santé mentale, le premier réflexe qu'ils ont, c'est aller voir un psy. Enfin, on dit, des enjeux de santé mentale, alors ça veut dire que tu dois aller voir un psy. Mais non, il y a plein d'étapes avant ça. Et on pourrait tout à fait prévenir beaucoup de choses, simplement en éduquant les personnes, en leur permettant simplement d'adopter des petits actes dans leur quotidien qui les aideraient énormément. C'est encore très sous-estimé, c'est très mal connu tout ça.
C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, on est très réactif.
Oui.
Donc, que ce soit dans les entreprises, dans la société, donc on a un problème, on doit trouver des solutions, mais il y a peu d'initiatives qui est fait en termes de prévention. Tu as parlé d'éducation. Moi, je le dis depuis des années. J'ai des enfants, j'ai une fille qui est au secondaire. Ils en parlent pas de santé mentale. Ils en parlent entre eux. Ça, je trouve ça magnifique, mais c'est pas dans le cursus, c'est pas dans, il en parle pas, c'est un sujet qui est encore tabou. Moi, d'après moi, ça devrait être introduit à l'école primaire de parler de santé, de bien-être. Ben, bien sûr, vulgariser la question pour qu'ils la comprennent. Mais j'abonde tellement dans le même sens que toi. Laisse-moi te poser une question sur les tabous dans les tabous. Tu vas comprendre où je m'en vais. On sait déjà que le sujet de la santé mentale, beaucoup de préjugés, beaucoup de tabous qui demeurent. Mais y a-t-il des choses dans la grande sphère de la santé mentale qu'on ne doit pas adresser ou qui est peut-être plus difficile à adresser? Est-ce que, par exemple, pour te guider un peu ou du moins clarifier la question, est-ce que, par exemple, on ne doit pas parler de suicide? On ne doit pas parler de troubles alimentaires? Est-ce qu'il y a des sujets qu'on ne doit pas aborder? Parce qu'on entend souvent que si on en parle, ben ça pourrait donner des idées à quelqu'un de le faire. Est-ce que tu comprends ma question? Qu'est-ce que tu en
Ouais.
penses?
Oui, je la comprends très bien parce que effectivement, par exemple, le sujet du suicide, moi, c'est un sujet que je connais un peu parce que à la Fondation Jeunes en Tête, on a été face à ça parce que un des ateliers qui était offert dans les écoles, c'était sur la dépression et c'était une question, le suicide. Alors, moi, je crois profondément, puis c'était aussi le parti pris de cette fondation, qu'il n'y a pas de sujet tabou. Il faut parler absolument de tout. Ça, c'est très important, de façon rationnelle, détaillée, et donner le plus possible de clés aux personnes pour comprendre les choses de manière factuelle. Après, il faut faire attention sur des sujets comme le suicide, qui peut être sujet à beaucoup de fantasmes, beaucoup d'idées reçues, de justement désamorcer ces idées reçues-là. Pour ne pas alimenter des fantasmes qui sont liés au suicide, comme quoi ce serait être courageux ou au contraire être complètement être un lâche, hein, des choses comme ça. Ça n'a pas sa place en fait. Il n'y a pas de valeur morale au suicide. Il faut en parler dans ce que c'est. C'est une volonté de mettre fin à sa souffrance, pas à sa vie. Et je pense qu'il faut aussi peut-être faire attention aux personnes à qui on en parle. C'est-à-dire, et toujours se concentrer sur les raisons initiales. Par exemple, je sais que les adolescents, c'est beaucoup plus porteur de leur parler de dépression que de leur parler de suicide. Parce que le suicide n'est qu'une conséquence possible d'une dépression non soignée. Ce n'est pas un sujet forcément à explorer en soi. C'est pas ça. C'est pas le fait d'en parler en sujet unique qui fait que ça va désamorcer le suicide chez les jeunes. Par contre, ce qui va permettre de désamorcer le suicide chez les jeunes, c'est de les sensibiliser, de les outiller sur la détection de la détresse psychologique. Donc, quand ils vont savoir que ce qu'ils ressentent, tout ce que ressent un ami, etc., c'est de la détresse psychologique, ils vont donc le comprendre et être capable après d'agir là-dessus, d'aller chercher les bonnes ressources, de se faire aider, etc. Pour in fine ne pas arriver jusqu'au suicide. Donc oui, il faut informer sur ces sujets-là de manière très factuelle et précise, loin de la mystification qu'il peut y avoir. Mais parfois, c'est plus utile de parler de ce qu'il y a avant, pour éviter que ça arrive, en fait. Il y a des sujets qui peuvent être un peu dangereux parce qu'ils aspirent un peu l'attention des gens. Alors que c'est pas forcément le plus intéressant dans l'histoire, en fait. C'est pas forcément là-dessus qu'il faudrait se focusser. La scarification, moi j'en ai parlé, l'automutilation. J'ai fait un article là-dessus. C'est très important d'en parler parce qu'il y a énormément de peurs, de fantasmes, d'idées reçues sur l'automutilation, comme quoi c'est une envie de se suicider, de se couper les veines. Hein. Non, bien souvent, c'est beaucoup d'autres choses chez les jeunes. C'est beaucoup plus un appel à l'aide, c'est un symptôme de nervosité, c'est un symptôme de quelque chose qui n'est pas résolu, etc. Mais ça ne signifie pas forcément une envie de se suicider. Donc, c'est très important d'aller clarifier ces notions-là. Mais après, il faut toujours faire attention à qui on s'adresse et de comment on le fait. Donc, pour des publics adultes, c'est très important d'en parler, de parents, etc., parce qu'il faut qu'ils comprennent ce qui se passe. Chez les jeunes, il faut en parler aussi, mais il faut faire attention avec les mots qu'on utilise pour justement pas tomber dans des fantasmes ou des choses qui des idées reçues, des stéréotypes qui pourraient alimenter quelque chose, une espèce de sublimation du truc ou un effet de mode et les ramener à la réalité de ce que c'est réellement. Et surtout les amener vers les ressources pour se faire aider. Surtout leur donner les clés pour se faire aider. C'est ça qui est le plus important. Parce que c'est pas tant le geste qui est important que ce qu'il y a derrière qui est important et qu'il faut traiter absolument. Donc c'est ça. Moi, je pars du principe qu'il n'y a aucun sujet tabou, mais il faut faire attention à la manière dont on en parle et à qui on en parle. Je sais que, par exemple, la dépression, ça peut être quelque chose de compliqué d'en parler, par exemple, à un public d'enfants. Parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens intellectuels encore pour se dissocier des symptômes de la dépression. Ils peuvent très facilement penser que, alors qu'ils passent juste une phase de déprime normale dans leur vie, qu'ils sont en dépression. Parce qu'ils n'ont pas encore cette capacité psychologique de se rendre compte que non. Donc, il faut faire attention à ça. Avec des enfants, il vaut mieux parler de gestion des émotions, de gestion de sa santé mentale, des relations avec les autres, qui peuvent être des facteurs de détresse psychologique, plutôt que de parler de dépression. Donc, c'est ça. Il faut adapter son discours.
Qu'on a quelque chose en commun, outre notre passion pour la santé mentale, on a un lien, on appelle ça un deuxième degré, ou du moins un premier degré avec l'Alliance canadienne de la santé mentale et de la maladie
Oui.
mentale. J'ai eu la chance d'être nommé comme visage de la santé mentale en 2017. Mon Dieu, quel temps passe vite. Et tu as décroché cette année le prix de champion, championne de l'Alliance. Bravo, félicitations.
Merci.
J'ai pas eu la chance de te le dire en personne. Tu fais partie de la gang de l'Alliance canadienne de la santé mentale, maladie mentale. Comment t'es senti quand t'as décroché ce beau titre, ou du moins ce beau prix?
Franchement, enfin, j'ai eu de la peine à le croire parce que tu sais, c'est pas toi qui candidate, hein, c'est des
Non.
personnes qui votent pour toi. Donc, j'ai vraiment eu de la misère à le croire, honnêtement, quand on me l'a annoncé. J'étais, bah oui, forcément très touchée, très 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 heureuse. C'est un moment important pour moi à tout point de vue, professionnel, personnel. C'est une reconnaissance tellement folle. Donc, c'est absolument génial. J'étais aussi à Ottawa. On a eu une ovation de tout le Parlement qui nous a applaudi. Donc, les 7 gagnants de ce prix-là. C'était très fort pour moi parce que voilà, je suis pas québécoise et je me suis souvenue de quand je suis arrivée ici. Dans le bureau d'immigration. Et là, je vois le premier ministre qui se lève pour m'applaudir. Donc, quelques années plus tard, ça fait quelque chose. C'est quand même assez émouvant. Il se passe quelque chose à ce moment-là. Mais c'est aussi une grande, grande, grande responsabilité. C'est-à-dire que je ressens aussi toute l'attente qu'on a sur moi d'amener ces connaissances de la meilleure des façons, de la façon la plus sincère, la plus engagée possible, authentique auprès des personnes pour éduquer, sensibiliser à la santé mentale. Donc c'est une grande responsabilité aussi que je ressens et je j'ai pas le droit encore moins de faire fausse route. Il faut que je fasse attention à tout ce que je fais et que je le fasse bien.
Je voudrais rectifier ce que tu as dit, si tu permets, te considère comme québécoise. Et une québécoise, en fait, qui fait toute une différence. Je veux te le dire, tu fais un travail remarquable. Tu as reçu ce prix avec mérite. Et ma foi, continue à faire ce que tu fais. Je trouve ça incroyable. Et effectivement, tu es une météorite et je n'ai pas l'impression que cette météorite va s'écraser. Au contraire, elle va surgir, elle va continuer à rayonner. Merci beaucoup, Eva, d'avoir accepté cette invitation et quelle belle entrevue. J'espère que tu vas apprécier aussi.
Ben oui, j'ai adoré, mais ça me, je suis pas étonnée. Je m'attendais à cet échange-là. Puis je te remercie encore vraiment, Martin, pour cette invitation, puis cette tribune que tu m'offres.
Alors, un grand merci à notre invitée cette semaine, Eva Milko, présidente de la firme en création de contenu Good Vibe Stratégie. Je vous remercie pour l'écoute. Je vous remercie également pour vos commentaires qui sont nombreux. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si vous l'avez apprécié, bien, donnez-nous des étoiles. En fait, abonnez-vous à notre balado. Laissez-nous des questions, des commentaires sur la plateforme de balado que vous préférez. Si vous voulez nous suivre également, bien, venez nous voir sur notre site web www.entrelesdeuxoreilles.ca. On est aussi sur Facebook, Instagram et LinkedIn. On est bien content de vous avoir comme auditeur. C'est le 32e épisode. On approche les 30 000 écoutes. Donc, on est vraiment très, très, très heureux. On vous apprécie. J'espère que vous le savez. Donc, on vous retrouve bientôt, Lydia et moi, pour le 33e épisode du balado en santé mentale et santé mieux-être entre les deux oreilles. Et d'ici là, prenez soin de vous.